Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Non conformes. Non conformes, ils le sont. Par essence, par nature. Romane Boringer, actrice miraculeuse qui ignorait, il y a encore 4 ans, qu'elle était une réalisatrice hors pair. Philippe Rebaud, dont la fantaisie mélancolique, la poésie dépressive et la nonchalance bourrée d'angoisse métaphysique font merveille à l'écran. Ensemble, dans la vie vraie, eh ben, ils ont vécu, ils se sont aimés, ils ont fait 2 enfants, puis se sont désaimés, enfin, se sont désaimés, et ont fabriqué en live, avec leur histoire, la comédie la plus jubilatoire de l'année 2018, un film à leur image, libre, drôle, iconoclaste, baptisé « L'amour flou ». Film qui a été un succès. Alors, la bonne nouvelle de ce mois de novembre, c'est que « L'amour flou » débarque en exclusivité sur Canal, décliné en série les lundis à partir de 21h à raison de 3 épisodes par soirée. Voilà, on ne pouvait pas les quitter comme ça juste après un film, hein, c'est sûr. Bonjour Romane.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Romane, Philippe, est-ce qu'écrire un film joyeux, parce que je repars de la genèse de l'histoire, même si avant de commencer cette conversation, vous nous avez dit tous les deux que bien évidemment on pouvait plonger dans la série sans avoir vu le film, hein, bien sûr.
Oui, on a fait attention que la série puisse se découvrir à nouveau comme une entité, qu'elle puisse se raconter à des nouvelles personnes qui peut-être n'auraient pas vu le film.
Exister par elle-même. Mais alors ma première question c'est, puisque je remonte à la genèse, est-ce que écrire un film joyeux sur un sujet douloureux, l'amour qui finit par ressembler à du désamour, ça vous a sauvé ?
Non, parce que ce qui nous a fait écrire, c'est qu'on a assez vite trouvé que ça n'était pas un sujet si dramatique. Enfin, il avait fallu se remettre de l'idée qu'on allait se séparer et tout ça, mais une fois que ça a été acté, qu'on a digéré l'info, après on s'est dit, bon, c'est une petite tragédie banale, ça n'est jamais qu'une séparation, ça n'empêche pas l'amour, le diable gît dans les détails, mais en revanche, on continue de s'aimer, bon, les détails nous ont tués. Mais c'était pas très grave, et du coup, voilà, ça nous a pas soigné de quelque chose qu'on n'avait rien à soigner, on était contents.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe.
Ah, c'est très intéressant.
Non, moi je garde le souvenir bien quand sûr. Même. Que l'écriture du film, c'est l'extrême chagrin, enfin chez moi en tout cas, l'extrême chagrin de se dire que cette histoire d'amour rêvé, cette famille qu'on a fait avec les enfants, s'achevait.
Ouais.
C'est l'extrême chagrin de ça qui m'a férocement, en moi, donné l'envie de trouver une solution, qui a été cet appartement, ce sépartement dans lequel on s'est installé avec Philippe. Donc ils sont 2 appartements séparés mais reliés par la chambre de nos enfants. Donc dans la vraie vie, le chagrin de la désillusion, quelque part ce chagrin que j'ai pas pu supporter, m'a fait trouver le chemin vers cette invention géographique. Puis l'idée d'en faire un film parce que tout d'un coup c'était une aventure trop romanesque, singulière qui nous arrivait. L'idée de la transformer en récit, comme un pansement, comme un câlin,
comme
un baume. Et du coup, je peux dire quand même que ce que dit Philippe est vrai, c'est que si on a eu l'amour, la bienveillance, la douceur entre nous d'arriver à envisager ce film, c'est que le chagrin était déjà digéré derrière
bien nous. Sûr.
Mais quand même, le film, il est issu d'une volonté féroce à nous, que nous avons en commun, de inventer un monde ailleurs, différent.
Alors justement, je reviens sur ce monde inventé, parce que bon, quand on n'est plus amoureux, mais qu'on s'aime beaucoup trop quand même pour se séparer, il faut trouver une solution, surtout quand on a 2 enfants. Donc, vous nous l'avez rapidement planté, le décor, la solution, effectivement, c'est cet appartement, 2 appartements complètement séparés, réunis uniquement par la chambre des enfants, mais l'idée, elle a germé un jour quand vous vous baladiez dans Montreuil, paraît-il, Romane, vous voyez une grande affiche qui annonce la construction d'un immeuble avec des appartements donc à vendre sur plan. Donc, vous envoyez des mails au promoteur, vous lui expliquez votre situation, il ne vous prend pas du tout pour...
Je suis tombée sur un promoteur dingue,
une fantaisiste,
génial.
Ouais. Voilà. Et il s'arme d'un stylo et il commence sur les plans à abattre des murs porteurs et vous dire, mais attendez, la solution à votre problème, je l'ai là.
Non, je suis tombée sur un Nicolas, un promoteur extraordinaire qui donc fabriquait ces petits immeubles. Je lui ai envoyé un mail pour cause de séparation. Je lui ai dit peut-être trouver 2 appartements dans le même immeuble et tout ça. Il se trouve que lui-même était divorcé, que l'histoire l'a touché.
Ah.
Et que le matin où je l'ai rencontré pour la première fois, il est arrivé avec des plans. Et il m'a dit, j'ai mieux que 2 appartements
dans le même immeuble.
pourquoi ne pas rejoindre... C'est lui qui a inventé cette solution. Pour, si je vous casse,
donc
si je vous vends ces deux plateaux...
Le promoteur a inventé le début du synopsis du film.
Mais oui, ouais. Il a été incroyable. Il avait bûché toute la nuit sur le truc. Il m'a dit, bon, j'ai deux appartements à tel niveau. On pourrait casser le mur porteur. Si là et là... Mais il a vraiment... Et je le regardais, j'étais sidérée par ce type. J'étais sidérée, parce qu'il me dit, deux appartements dans le même immeuble, c'est quatre chambres quand même. Enfin, oui. Alors que là, je dis, mais on peut faire ça. Il me dit, vous achetez ce plateau, Philippe achète ce plateau, on les réunit. Enfin, il a été vraiment...
On s'est méfié longtemps. Hein.
Oui.
On pense
parce que c'était trop bien,
c'est
trop
rare
formidable.
Dans ce monde-là, dans le monde des promoteurs immobiliers, des types qui sont des bienfaiteurs ou en tout cas qui essaient de faire le bien pour
c'est
de vrai.
Longtemps défi, on s'est
donc,
dit.
Donc on s'est dit, moi j'ai évidemment pensé qu'il était tombé amoureux de Roman.
Pas du tout un truc glauque. Il était marié très heureux.
Non, mais il y avait plein de. Mais voilà, maintenant.
C'est génial.
Un galant homme, un type merveilleux.
Voilà. Alors, Roman Boringer, Philippe Rebaud, le film, il a été tourné en temps réel pendant que se déroulaient en fait les travaux du fameux sépartement, c'est-à-dire les deux appartements séparés, reliés uniquement par la chambre des enfants. Et tout le monde a joué son propre rôle dans l'aventure. La famille, les enfants, les amis, vous écriviez le film en même temps que vous inventiez votre nouvelle vie. Le budget, il était minuscule, mais alors l'accueil du public pour L'Amour flou, il a été absolument exceptionnel.
C'est vrai.
Et les critiques, absolument unanimes. Oui. Le film, il a été projeté pour la première fois sur grand écran au Festival d'Angoulême.
Oui. Il y a eu le prix du public là-bas. Oui. J'en pleure encore.
Oui. C'est vrai. C'est beaucoup d'émotions. C'est vrai, c'est pour ça qu'on pleure tout le temps dès qu'on reparle de cette aventure et de ce film et de la façon dont les gens l'ont reçu vraiment. Comme si nous-mêmes, on était détenteurs d'une... Je sais pas, d'un savoir.
En tout cas, c'était très novateur parce que sur grand écran, tout était mêlé. Le vrai, le faux. Les spectateurs pouvaient se demander si c'était un documentaire ou une fiction. Comme par exemple dans les films de Cassavetes, d'Agnès Varda, de Mai Wen ou les comédies de Julie Delpy.
Tous les noms que vous citez sont des gens.
Que vous aimez.
Qu'on aime beaucoup. Non, mais qui nous ont beaucoup inspirés, dont le cinéma nous inspire. Que ce soit, vous avez dit Julie Delpy, Agnès Varda, dans des genres très différents. Agnès Varda, elle a fait un film extraordinaire avec son fils quand il était tout petit. Ce film a le plus beau titre que je connaisse, qui s'appelle Le Documenteur.
Ouais.
Il y a tout dans ce titre. On pourrait presque l'emprunter. Notre film, c'était un documentaire. C'était à la fois, on ne voulait vraiment pas faire de l'entre-soi. On avait l'impression de tenir quand même le...
Quelque chose d'universel.
D'universel, comme une comédie sentimentale. On avait l'impression que ce qu'on était en train de raconter était comme quelque chose qui taraudait aussi bon nombre de gens qui se sont aimés, qui ont des enfants, qui cherchent une issue heureuse à tout ça... Donc c'est pour ça qu'on l'a fait.
Donc 2 ans après la sortie du film, l'équipe de création originale de Canal+, vous a, j'ai envie de dire gentiment, assiégé pour vous faire comprendre qu'il était en fait impensable de laisser s'endormir une pépite. Mais les enfants étaient devenus de jeunes ados. Ça a été facile de les convaincre de jouer à nouveau leur histoire, parce qu'une fois de plus, là, pour la série qu'on va découvrir, donc à partir de 21h les lundis sur Canal+, on exclut, vous avez entraîné votre famille, vos amis, les proches, les voisins.
On les a entraînés, on leur a juste posé la question, ils ont dit oui. On n'a pas eu beaucoup, on a forcé personne, mais pas du tout. Hein. Dès qu'on a proposé, les gens ont dit
tellement...
Et puis c'était joyeux. Alors si je reprends pour les enfants, je ne suis pas sûr qu'ils soient rendus compte de... qu'ils étaient en train de tourner, ou enfin s'ils s'en sont rendus compte.
Mais
en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient pris dans une espèce de tourmente qui est déjà leur famille, et qui est déjà la communauté qui nous entoure, donc une caméra en plus ou en moins.
Une caméra en plus ou en moins, dit
non,
Philippe
Rebaud. Non, mais c'est un objet, c'est un objet, et ça a été un tournage unique. Ça. On ne peut pas nier que là, on retourne aussi à la racine du cinéma qu'on adore, faire des films en famille, sans être, encore une fois, entre soi, pour raconter des choses universelles, mais... C'est une aventure magique. Les enfants se levaient à 7h pour partir à l'école alors que la table régie était en train de s'installer.
Et tout ça leur semblait normal.
Quelques vieilles bières de la veille gisaient dans leur chambre de la veille du tournage. Tout ça leur paraissait...
Voilà, le vrai, le faux.
Quand j'ai dit
tout,
à ma fille, j'espère qu'on t'a pas embarrassé quand même avec cette histoire de série qui sort là. Elle m'a dit, je m'en fiche, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Je pense qu'ils ont été...
Magnifique,
ouais. C'est vrai. C'est magnifique.
C'était un des meilleurs moments de notre vie aussi. Hein.
Il y avait une espèce de joie à faire ça.
Alors, ça donne effectivement une série non conforme. Je trouve qu'elle vous va bien, cette formule.
Ouais,
une série folle, une série tendre. Voilà. en exclu sur Canal, le lundi, à partir de 21h, L'amour flou. Et Philippe Rebaud, vous dites, ouais. On a des valeurs, mais aucun principe. C'est ça, être libre.
Alors, je ne sais pas si c'est ça, être libre, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut vivre. Oui. Les principes, ça n'a rien, c'est des cadres, c'est des codes. Après, ce qui compte, c'est vraiment les valeurs. La principale, c'est d'envisager l'autre, tout simplement, de l'accepter, de se dire on vient en communauté, on ne va pas... Ça, c'est la première valeur. Après, tout le reste en découle. Et après, les principes, oui, j'aime bien de cadrer un peu certains trucs, essayons de se coucher tôt quand on est un enfant. Mais même un enfant, du coup, ça, c'est un principe, parce que si cet enfant n'est pas fatigué, et que je suis un bon parent et que je vois qu'il n'est pas fatigué, je n'ai pas l'obligé à se coucher tôt, finalement. Non, mais c'est vrai, en réalité, c'est parce que je soupçonne qu'il va être fatigué, mais s'il n'est pas fatigué, je ne vais pas le coucher.
Je comprends pourquoi vos enfants sont heureux. Je comprends.
Non, c'est vrai qu'il y a un bon flic, un mauvais flic. Vous laissez deviner qui.
Voilà, Romane Bringe et Philippe Rebaud. Ils sont plus amoureux, paraît-il, mais en fait, ils s'aiment à jamais. On vous retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Quand on a deux enfants, comment se séparer sans se séparer ? Romane Boringer et Philippe Rebaud ont trouvé la solution et feront peut-être des émules. Pour ça, faut regarder Canal+, dès lundi, à partir de 21h. Le film qu'on a adoré, L'amour flou, se prolonge en série. Romane Boringer et Philippe Rebaud, si on part du point de vue que l'enfance est fondatrice, des enfances extrêmement différentes l'une de l'autre devraient aboutir, une fois adultes, à des points de vue tout aussi différents sur la famille, sur l'art d'être parent ou sur la façon d'aimer. Vos enfances ont été extrêmement différentes et pourtant vous avez la même vision de ce que doit être un père ou une mère. Vous, Romane, quand vous aviez 9 mois, votre maman a décidé de partir sans vous. Elle est partie vivre sa vie. Elle vous a, je ne peux pas dire autrement, abandonné à votre père, Richard Boringer, qui s'est retrouvé du coup père et mère.
Oui, je ne sais pas si elle m'a abandonné ou si elle n'a pas la capacité de me garder. Mais en tout cas, oui, je me suis retrouvée en duo, en tête à tête, en tout cas les 8 premières années de ma vie, avant que mon père ne m'offre une deuxième maman. Je me suis trouvée les premières années de ma vie en duo avec mon père, tout à fait.
Donc, votre père qui débutait sa carrière d'acteur, il s'est retrouvé à tenir un rôle inattendu dans la vie vraie et qui n'est pas le plus évident. Parce que comment se substituer peut-être aux gestes maternels qui peuvent sembler en théorie plus spontanés. Il avait une double vie, votre papa.
Oui, quand j'y pense, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quand je vois comment on est concerné, soucieux de nos enfants et de ça... cet homme-là, à cette époque, qui d'ailleurs n'était pas du tout encore un acteur, ni qui travaillait, ni qui gagnait sa vie, qui était un bon galérien quand même, assez en souffrance. Comment il s'est retrouvé avec un petit bébé comme ça, puis...
9 mois.
Ouais.
Parce qu'un bébé de 9 mois, ça réclame une attention constante.
Ouais, je sais pas, il s'est démerdé, quoi.
Donc sa vie était un jonglage permanent.
Ouais, je crois que... Puis finalement, le résultat est pas mal. Je suis assez bien... Non, mais je suis bien ancrée sur mes pattes. Il a fait de moi quelqu'un d'assez équilibré, solide. J'ai beaucoup des fois d'émotions quand je pense à lui, se bataillant là-dedans. Il a assuré, quoi.
Il paraît que jusqu'à l'âge de 7 ans, vous avez appelé votre père maman.
Paman.
Paman, c'est encore mieux.
Oui, paman. Alors, il y avait déjà le sépartement.
Le sens de la formule.
Du calembour, oui. Il paraît. Est-ce que c'est la légende ?
Et lui, vous appelez ma petite indienne à cause des yeux légèrement bridés que vous alléguez votre maman,
qui est
d'origine vietnamienne.
Tout à fait, eurasienne.
Eurasienne. Oui. Alors... Romane Boringer, jusqu'à l'âge de 7 ans, vous avez donc crapahuté partout avec lui, presque greffé à votre papa sur les tournages et puis surtout au théâtre. Quand il était sur scène, forcément vous étiez quelque part en coulisses ou dans la salle. Vous ne pouviez pas échapper à ce métier.
Oui, je ne crois pas vraiment. Vraiment du plus loin qu'il me souvienne, j'ai la sensation que c'était pour moi le meilleur endroit du monde. C'est vrai, ça fait un peu enfant de la balle et de ça, mais...
Mais c'est une réalité.
D'être avec lui, la nuit, le jour, les bruits, les sons, les odeurs des théâtres, ça fait vraiment un peu mystique, mais c'est profondément vrai chez moi. Et ça a une forme d'endroit tellement enrobant, rassurant, réconfortant la nuit... les bruits, les copains, c'était...
Et puis les théâtres, c'est comme une espèce de ventre,
oui,
un temple,
dit ça.
N'est-ce pas ?
Un jour, j'ai compris c'est que ça. Le théâtre, c'était comme un ventre, effectivement. Quand tu rentrais là-dedans, t'étais... le monde extérieur, tout ça, tout d'un coup, s'annihilait un peu. Et, Et j'ai gardé ça tout le temps. Et puis oui, c'est devenu mon... Mais c'est vrai, je ne pouvais pas tellement finalement échapper. Enfin, c'était vraiment dans toutes ces années d'enfance, petite enfance, j'ai des
c'était
souvenirs...
C'était votre matrice.
Ouais, j'ai des souvenirs un peu confus, oui. Bien sûr, diffus. Mais c'est vraiment toute une sensorialité qui est liée à ces lieux.
Roman Boragé, un jour, votre père a rencontré Astrid, qui est devenue la maman que vous n'aviez pas, donc celle qui est partie lorsque vous aviez 9 mois. Est-ce que vous l'avez souvent imaginée par-delà son absence, cette mère qui était votre génitrice et que vous avez peut-être fantasmée est-ce que vous la dessiniez, vous pensiez à elle, vous lui parliez quand vous étiez enfant, secrètement ou pas
du tout. Pas du tout. J'ai été une petite fille vraiment qui avançait très droit. Sans cultiver le questionnement, l'interrogation, l'introspection.
Pour vous protéger peut-être.
Sans doute pour me protéger, pour me protéger aussi mon père, dont je devais sentir qu'il y avait moi avec lui, que c'était sans doute une grande source d'émotions, d'émotivité pour lui. Donc, montrer que ça allait bien. Qu'il fallait pas s'en faire pour moi et c'était pas d'ailleurs faux. J'étais une petite fille, une adolescente qui allait assez bien, puis très vite j'ai trouvé ma place avec mon métier. Donc, mais je pense que montrer qu'il fallait pas se faire de soucis pour moi en plus du reste était important pour moi. Donc pas très peu de questions, très peu encore une fois d'introspection et une grande acceptation des choses qui venaient. Comme ça, et puis c'est très important dans ma vie à 8 ans quand même, tout d'un coup, cet amour qu'il a eu avec Astrid, qui est toujours qui est une grande histoire d'amour de notre vie, la naissance de mes frères et sœurs. C'est comme deux enfants, c'est comme deux...
Et puis là, vous découvrez ce qu'est la féminité, parce que quand on grandit, qu'on crapahute derrière son père, en fait, on ne sait pas si on est un enfant, mais est-on une sorte de garçon manqué, est-on une petite fille vous avez un référent. Vous avez soudain
une maman, une femme, les goûters, et puis même l'apaisement aussi chez mon père, le foyer, la maison. Donc j'ai vraiment comme deux enfances très différentes l'une de l'autre, qui sont moi complètement aujourd'hui. Mais je pense que quand même, évidemment, le trouble originel, il est quand même
demeure,
fort.
Demeure,
et je crois que mon obsession, je vois que ça, la panique de la séparation, de la rupture du lien, de la disparition de l'autre.
Mais ça vient de ça.
Ça vient forcément quelque part de là. Bien sûr. mon obsession de devenir maman, avec qui ? Donc le choix délibéré, absolument pas hasardeux, assez tard finalement, parce que moi j'ai eu mes enfants à 36 et 38 ans, une fois que j'ai rencontré Philippe, ça a tellement plané sur ce sujet de la maternité, sur ma vie tout entière, que le fait de l'avoir fait avec Philippe et tout ça, ça a développé, je pense, chez moi, cette féroce, cette folie jusqu'à géographique d'inventer quelque chose qui
pour que les choses soient pérennes.
Oui.
Pour que jamais rien ne se lézarde.
Exactement.
Voilà. Et qu'il n'y ait plus jamais d'absence.
Exactement.
Alors, je me retourne vers Philippe Rebaud, parce que vous, Philippe, vous avez une enfance totalement différente. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 3 garçons, très soudés. Et de vos parents, vous dites, je les aime tellement qu'ils ont dû vraiment bien faire leur boulot.
Eh ben. c'est émouvant. Oui, je pense que c'est ça. Ils ont très bien fait leur boulot. D'abord, ils ont évidemment distribué de l'amour. Et aussi beaucoup la parole et la rigolade. En fait, voilà, c'est ça la base de l'éducation de mes parents.
Alors, la parole et la rigolade, et après, mais l'humour mélancolique, parce que vous êtes quand même très doué pour ça, l'humour mélancolique. C'est un héritage paternel ou maternel ?
Moi, je crois que c'est les deux. J'ai mis du temps, j'ai cru longtemps que ça venait de ma mère, et en fait, ça vient des deux. C'est des mélancoliques, mais marrants, en fait. Comme tous les gens marrants, finalement. Il faut beaucoup de mélancolie pour être marrant, je crois. je pense qu'ils sont. Enfin, c'est une espèce de superficialité par profondeur. On pourrait dire ça comme ça. C'est ça, être marrant, je crois.
Superficialité par profondeur.
Ben ouais, je crois. Voilà. C'est pas de moi. Et après, alors j'ai 2 frères, mais moi j'ai été d'abord de 0, enfin de ma naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. J'étais unique, puisque mon premier frère est né 7 ans après moi. Donc on est nés tous les 7 ans.
Voilà. Et l'autre frère, il y a carrément presque 15 ans d'écart.
Ouais. Donc, mais du coup, ça veut dire que ma petite enfance ou l'enfance, ma première enfance, un peu de 0 à 7 ans, moi, c'est une enfance
assez solitaire.
Du coup, c'est là où moi j'ai l'impression qu'on a une forme de connivence. C'est dans cette période-là Comment ?
On a un grand point commun.
On a un grand point commun, c'est vrai. On a des physiques difficiles à l'enfance. Ah. Et, mais c'est surtout, on était enfin, dans la fiction, au théâtre, elle devait s'inventer des histoires. Et moi, j'inventais beaucoup d'histoires tout seul chez moi. J'étais le héros de mes histoires.
Pourquoi dites-vous, on a des physiques difficiles à l'enfance ?
Bah, c'est parce non, que c'est j'ai découvert blague. Un immense point commun. Non, non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
On a deux photos de nous au même âge. D'abord, oui. On se ressemble.
Oui.
Et on était, comment dire ?
Hein ?
Bah, comment tu dirais ?
On avait des physiques difficiles. On louchait, on était ouais. Un peu ronds tous les deux. Moi, personnellement, j'avais les dents
attendez,
en avant.
Attendez, vous étiez ronds ?
Ouais.
Vous,
ah bah,
vous j'étais un bon petit... la grande ouais, et longue ouais. Gigue d'un mètre 87
92.
Ronds tous les deux.
Et Simon, ouais.
Strabisme.
Strabisme.
Donc, grosses lunettes d'époque.
Des grosses...
des têtes malhabiles, quoi.
Ouais, un truc pas facile pour se lancer dans la vie.
On a deux photos hyper proches, carrément.
Ce qui nous a permis de développer des choses très différentes, mais ça nous a donné une espèce de force dans la vie. Et puis, quand on s'est retrouvés, finalement, je l'ai trouvée très belle. Je crois qu'elle m'a trouvé très beau. C'était comme une revanche des moches.
Voilà. On appelle ça la revanche des moches.
C'était la revanche des moches quand on s'est retrouvés.
Bon, ces chemins qui sont les vôtres, on va en poursuivre le récit dans un instant. Ils sont épatants. Roman Boringer, Philippe Rebaud, vraiment. On les retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
On connaît tous son visage. Peut-être moins son nom, c'est Philippe Rebaud, acteur nonchalant et virtuose, loser magnifique, embarqué dans l'aventure réjouissante de L'amour flou, qui fut, je dis bien flou, hein, qui fut d'abord un film et est désormais une série en exclusivité sur Canal le lundi à partir de 21h. Une aventure initiée par la mère de ses enfants, Romane Boringer, actrice et réalisatrice hors pair. Alors, puisque je vous tiens, Philippe Rebaud,
ouais.
Je continue avec vous. Bon, on a bien compris que... Enfin, on imagine avoir compris que le succès vous est tombé dessus malgré vous. Vous ne l'avez pas cherché, en fait. Mais la route fut pleine de virages et d'expériences. Après des études de droit abandonnées, ouais. Puis des études de lettres abandonnées, vous avez été... Et ce n'est pas exhaustif, hein. Vous avez été magasinier...
Ouais.
Mannequin pour Yoji Yamamoto, puis ouais. Vous avez débarqué dans le cinéma comme régisseur. Mais alors franchement, mannequin chez Yamamoto, faut absolument
comme
nous raconter.
Pas vexer, comme je voudrais pas qu'il se vexe, j'ai été aussi mannequin pour Issey Miyake. Je voudrais pas qu'il s'engueule au Japon les deux en disant des noms qu'il n'a pas cités. Oui, alors c'était pas une
alors
carrière.
Vous dites que vous avez commencé dans la vie avec un physique difficile. Vous nous avez dit ça il y a deux minutes, mais en fait, vous aviez, on vous courait après pour défiler sur les podiums.
Alors on m'a pas couru après. C'est un hasard de la vie. Hein. Il se trouve que je sais plus comment ça s'appelait les scouts. Enfin voilà. Talent scout. J'étais dans la rue et il se trouve que la talent scout en question est une ancienne copine du lycée. Donc. Enfin, elle ne m'a pas reconnue, mais c'est elle qui est venue me... Mais après, j'ai fait 4 défilés en tout et pour tout.
Moi, j'ai vu les photos, une classe folle.
En revanche, pour être tout à fait honnête, j'ai cru. Non, j'ai cru que j'étais devenu mannequin et donc je suis allé ensuite faire des castings chez Jean-Paul Gaultier. Et mon premier casting chez Jean-Paul Gaultier a été une humiliation absolument totale et a arrêté là ma carrière d'acteur.
Mais alors, vous voulez dire qu'on pouvait plaire à tous les créateurs japonais et déplaire chez Gaultier.
Oui, j'avais pas le physique. Tout le monde m'avait dit, ouais, il prend des gens de la rue. Et j'aurais dû comprendre dès l'escalier que c'était des gens de la rue avec des tatouages bâtis comme des dingues et de 23 ans quand j'en avais 30. Donc voilà,
enfin, bâtis comme
c'était
des
dans d'autres rues que la mienne.
1m92, quand même, joli.
Oui,
et puis affûter la ligne à l'époque où vous défiliez pour Yamamoto et
c'est
Miyake.
Bien, ouais, c'est un corps de fouet, en fait. C'est comme un fouet. Ça a l'air indolent. Et puis claque, ça peut claquer à tout moment.
Bon, vous m'en voulez pas si je vous dis que vous êtes quand même le dernier acteur que j'aurais imaginé au départ dans une carrière de mannequin, aussi courte fut-elle.
Je comprends même, moi. Hein, je suis même le dernier mec à penser que j'aurais pu être acteur ayant fait une carrière de mannequin.
Bon,
et en ayant séduit Romain de Boringer. Si on m'avait dit ça au début
Graal.
De ma vie, j'aurais jamais cru.
Ça, c'est le Graal. Alors, je continue de dérouler le fil. Un beau jour, voilà que vous devenez régisseur de cinéma, mais... On lit ça comme ça dans vos bios compressés, mais c'est un métier, Philippe Rebaud, régisseur. Vous avez improvisé ?
Oh, bah oui, parce que j'ai commencé... c'est un métier qu'on peut apprendre sur le tas. Donc j'ai commencé comme stagiaire régie.
Au départ, on est très mauvais. Après, on s'améliore.
Oui, on apprend, on essaie de comprendre comment marchent les codes de ce métier. Qui fait quoi, déjà ? Moi, il m'a fallu presque 3 semaines pour comprendre qui faisait quoi sur le plateau... Mais après, il faut être sympa, faire des sandwichs, avoir de l'énergie. Puis comme moi, j'aimais bien cette ambiance de plateau, je n'ai jamais pensé que c'était vraiment un boulot. Mais on me payait pour ça, donc c'était super.
Mais régisseur, on ne fait pas que les sandwichs, on fait quoi ?
Non, mais ça dépend, il y a des postes.
Régisseur, toi. T'as jamais été jusqu'à régisseur.
J'ai jamais été régisseur. Moi, j'ai été que stagiaire régisseur.
Ah oui, c'est ça.
Je bossais en équipe.
Stagiaire régisseur.
Le truc que tu fais à 20 ans, normalement. Ouais. Moi, je l'ai rencontré à 40, il était stagiaire régisseur.
Oui, bah, j'ai eu d'autres vies d'aventure et de.
C'est ça qui faisait tout son charme.
Stagiaire régisseur. Ouais. Mais.
C'était stagiaire de beaucoup de trucs.
Ouais,
en fait, ça
mais toujours rester stagiaire.
Ouais,
voilà.
J'aime bien, en fait, cet endroit.
Voilà, planqué, quoi.
Ouais, pas, de,
mais alors,
pas de responsabilité.
Au début des années 2000, voilà que sur le plateau d'un film de Cédric Kahn, un comédien est porté pâle. Ouais. Un comédien qui avait trois phrases à dire, voilà, dans une scène. Ouais. Et on demande au stagiaire régisseur, c'est-à-dire à vous, de le remplacer. Ouais. Et vous voilà installé derrière un bar, dans le champ de vision de la caméra.
Voilà.
Ça vous a amusé ou pas plus que ça dans l'immédiat ?
Alors en plus, je connaissais l'équipe, donc ça aurait dû être assez détendu. Mais en fait, j'ai perdu 28 kilos de transpiration. Et mon partenaire qui était Charles Berling a été adorable. Tout le monde était adorable, mais moi j'ai vécu un calvaire. Et en disant, bah, comme ça c'est fait, on ne rêvera plus jamais de ce côté-là de la caméra.
Raté.
Comme quoi,
mais attendez, on les dit comment quand jamais on a pris un cours de théâtre, quand jamais on a joué la comédie, quand pas, on est arrivé sur le plateau le matin en se disant tiens, je vais faire les sandwichs à mes potes Charles Berling et qu'on sort, et qu'on se retrouve devant la caméra à jouer. On le prend comment son élan ?
Eh ben, on se dit pourvu que je dise bien tous les mots, que ça se voit pas trop que je transpire, et puis voilà. On se dit surtout ça, et on se dit ben là j'ai l'impression que j'ai tout dit, il va dire couper. Voilà. Mais maintenant, ça fait 10 ans que j'applique cette méthode. C'est dis ton texte en essayant de dire toutes les lettres. Et c'est qu'on ne voit pas que tu transpires et que tu as peur. Et puis, ça va se passer.
Bon, comment êtes-vous, Philippe Rebaud, passé de figurant désigné par hasard à acteur ?
Ah ben, c'est pas moi qui l'ai fait.
Bah non, oui, mais dire, vous étiez très bon, puisqu'on n'a pas arrêté de vous solliciter ensuite.
Mais oui, ben, je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à ceux qui me sollicitent et qui me prennent, parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je me serais vraiment laissé tomber, je ne me serais jamais engagé.
C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que j'ai entendu un jour Romain Duris dire « Bon, Philippe, il est habité par plein de choses, mais alors il tend tellement sans cesse vers l'humilité que souvent il se déprécie. »
Ouais, c'est pas d'humilité. Ça commence par la dépréciation, donc ça ressemble à l'humilité. Mais en réalité, je ne m'aime pas, je trouve que ce que je fais est nul. Et du coup, mais je trouve ça pas grave, je trouve que ça s'est bien passé. Finalement, pour un type pas terrible, je trouve que je m'en suis bien sorti. J'ai deux enfants magnifiques, une ex-femme géniale. Je suis acteur, ça va bien, mais j'aime rien de ce que je fais. Je trouve tout le monde beaucoup mieux que moi.
Pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'acteur plus intéressant à filmer que Philippe Rebaud en 2021.
Et t'es quand même la fille la plus objective que je connaisse. C'est ça la bonne nouvelle.
Non, mais attendez, pour des gens qui se sont séparés, qui vivent dans
un justement,
sépartement,
j'ai
re-regardé la déclaration d'amour.
Moi, j'ai re-regardé Philippe par l'œil de la fiction et de la caméra. Enfin, voilà. Et c'était un spectacle, c'était fantastique. Je me suis carrément, même au montage et tout ça,
Vous êtes retombée amoureuse.
Non, point du tout. Non. Au-delà, j'ai pris au-delà. Justement, j'en ai fait comme un portrait, comme ça, plus même complet que ce qui me restait en tête à moi. Enfin, je l'ai vu d'un autre endroit. Et comme acteur, je sais pas qui est plus intéressant et plus divers et plus.
Enfin, moi, j'ai des noms, mais on va penser.
Eh ben, moi, j'en ai des noms, par exemple.
Moi, ça a été une source d'inspiration.
Et c'est une fille, et elle s'appelle Romane. On va parler de votre chemin à vous, justement, d'actrice, de comédienne. Parce que, vous rêviez de théâtre dès l'enfance. On a dit tout à l'heure, les théâtres, pour vous, vous entraînez votre papa Richard Boringer, c'était comme des temples, des maisons, des lieux de protection suprême où on réinvente le monde avec des mots. Donc, dès la sortie de l'adolescence, vous avez choisi le théâtre. Mais vous êtes passé par des cours, vous avez fait le cours Florent, ou pas du tout ? Vous avez tenté le conservatoire, ou pas du tout ?
Non, mais comment dire ? Ça ne pouvait pas être autrement, comme vous disiez tout à l'heure. Et en même temps, comme pas mal d'enfants d'acteurs, si je pense à mon amie Julie Depardieu, tout ça, c'est aussi chez nous qu'on a le plus de mal à le dire, aussi, parce que ça nous paraît trop évident. Donc moi, à 16 ans, j'étais au lycée, je ne prenais pas de cours de théâtre, je ne fréquentais pas du tout ce milieu-là, et je n'étais pas du tout du genre à tenter des écoles, enfin pas du tout, j'étais enfermée à l'intérieur de moi, ce désir secret que même moi, je ne savais pas. Je trouve que ma vie m'a raconté que c'était là que je devais être et pas ailleurs, mais je n'aurais pas pu dire... Je veux faire du théâtre, je veux être comédienne. Parce que.
Vous ne l'avez jamais dit à votre père, par exemple.
Non, mais même à moi-même. C'est-à-dire vraiment, c'était une sensation de vouloir
mais
trouver
alors,
mon
je
endroit.
Je veux comprendre, Romane Boringer. Vous n'aviez que 18 ans quand vous avez joué sous la direction de Peter Brook, La Tempête.
16 ans.
Encore plus fort.
Non.
16 ans. Donc vous jouez sous la direction de Peter Brook, La Tempête de William Shakespeare. Et vraiment, vous faites une entrée fracassante dans le métier. Les critiques sont absolument dithyrambiques. Comment arrivez-vous sur cette scène ?
Mais en fait, c'est vraiment, cette histoire ressemble à une histoire pas vraie, tellement elle est comme un conte de fées. Mais bon, moi,
ça existe, hein, les contes
oui,
de fées dans la
part,
vie.
Racontez-nous. C'était un retour d'avant. C'était, je sais pas, je ne sais pas. Et ben, donc moi, j'avais 16 ans. Je vivais dans la vallée de Chevreuse. Encore une fois, malgré le fait que mon père soit comédien, j'étais pas du tout. Une enfant d'acteur au sens de dans le milieu, allant passer des machins et tout ça, pas du tout. J'aimais de passion Jacques Higelin, je me suis rendue à un de ses concerts qui avait lieu aux Ulysses.
Ouais.
Et je l'ai rencontré dans les coulisses ce soir-là, comme une groupie de base, en larmes. Je me suis jetée dans ses bras, il m'a consolée, il était tellement gentil et voilà. Et il m'a dit, je vais te présenter mon jeune fils, donc le fils de Jacques s'appelle Ken Higelin. J'ai rencontré Ken, on a une espèce comme ça de coup de foudre, comme dans les contes de fées, la foule s'est fendue, il est apparu, on avait le même âge, il était beau comme un dieu, enfin une histoire folle comme ça. Il m'a vu, il m'a dit, je suis en train de travailler sur les répétitions d'une pièce de théâtre, le metteur en scène cherche une jeune actrice pour jouer Miranda dans La Tempête, je suis sûr que c'est toi. Et j'ai dit, pas question, j'ai jamais fait de théâtre, mes parents
scène,
voudront jamais.
Peu,
et moi,
Peter
je ne savais
Brook.
Pas qui était Peter Brook. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, oui, non. Et de toute façon, j'ai dit, je ne peux pas, mes parents seront fâchés, je passe mon bac. Voilà. Il a insisté pendant 3-4 jours. À l'époque, on avait des tam-tams ou je ne sais pas quoi. Donc, il m'envoyait des messages en disant, tu dois venir au Bouffes du Nord, tu dois venir au Bouffes du Nord. Et secrètement, j'ai été passer cette audition. Je suis montée sur la scène des Bouffes du Nord. Devant Peter Brook, j'étais absolument terrifiée. J'ai passé une audition médiocre. Je tremblais, j'avais aucune technique théâtrale et tout ça. Mais la chance est que des grands hommes comme Peter, tout ça, ils ont dû voir
voilà.
Par-delà ce qui était
là. Par-delà le trac.
Voilà, par-delà le trac.
Tout le potentiel.
Il m'a engagé sur le champ. Il m'a dit, viens avec nous. C'est un an et demi de tournée dans le monde entier. Ma vie a changé. J'ai trouvé ma place dans l'univers et c'est extraordinaire.
Incroyable. Bon, quand tout démarre glorieusement, aucune raison que ça s'interrompe comme ça. Donc, Romane Beranger, l'année suivante, eh bien, vous voilà consacrée, adoubée, couronnée par le monde du cinéma, en recevant le César du meilleur espoir féminin pour Les Nuits Fauves de Cyril Collard, film vraiment sociétal à l'époque. Je voudrais savoir pourquoi Les Nuits Fauves, film culte qui reçut 4 Césars en 92, pourquoi ce film ne passe jamais à la télé ? Vous avez une idée ou
il
pas ?
Il passe, il passe.
Rarement, très rarement.
Ah bon ?
Très
bon, je ne sais pas, de
rarement.
Toute façon, je ne regarde pas. Mais oui, bah, les deux chances de ma vie, Peter Brook, Cyril Collard, quasiment l'année suivante.
Presque la même année.
Les deux miracles de ma vie.
Les deux miracles de votre vie.
Ouais.
Le troisième miracle revendique l'attention
de, ma jeune vie de
votre jeune vie. Ouais. Alors, votre vision du théâtre, Romane, elle a toujours été ambitieuse. Vous avez joué Shakespeare, vous avez joué Tennessee Williams, Brecht, Tchekhov, Ionesco. Je voudrais savoir, c'est peut-être indiscret ma question, mais est-ce que cette exigence, elle bluffe votre père, Richard Boringer ? Il doit être assez bluffé.
Je pense, oui. Bluffé, je sais.
Mais oui.
Je sais pas. Je sais qu'il est très, très là. C'était très beau parce qu'il a découvert aussi la série, tous les épisodes d'un coup. Je sais que. Bon, et puis il y a un truc qui est quand même très drôle, c'est que, vous savez, quand lui, il a fait ça toute sa vie avec ses bouquins de l'autofiction.
Ouais.
J'ai toujours dit, moi, je ferais jamais ça. Ça me gênait presque. Moi, je trouve ça très beau chez lui, qu'il fasse des films avec son histoire et tout ça. Mais j'ai dit, moi...
Jamais. Et voilà que vous faites de l'autofiction.
Et les deux films que j'ai réalisés sont très proches de ce qu'il fait, finalement. Donc, il y a une espèce de... voilà.
On retrouve tout de suite Romane Beranger et Philippe Repos.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Leur singularité nous enchante. Je reçois le couple le plus atypique du cinéma français, Romane Beranger et Philippe Repos, dont le film « L'amour flou » donne naissance à une série, allez, je vais redire, épatante. Ce mot désuet, mais très signifiant.
Mon arrière-grand-mère disait que c'était épatant.
Elle disait ça à votre arrière-grand-mère.
Ouais.
Voilà, une série absolument épatante, en exclu sur Canal, le lundi, à partir de 21h, baptisée bien évidemment « L'amour flou ». Alors, cher Philippe Repos, on a évoqué à l'instant les auteurs auxquels... Romane a donné vie sur scène, très ambitieux, qui vont de Shakespeare à Tchekhov, en passant par Brecht ou Ionesco. Vous, votre filiation à vous, au cinéma, elle est faite Elle est faite de personnages très différents mais passionnants qui vont en fait de Charles Denner à Jean-Pierre Marielle, ouais. en passant par Patrick Devers. Oh, alors voilà. Devers, c'est le prince triste et déchu dont vous êtes presque amoureux, c'est ça?
Oh, ben, je suis carrément. À force de réfléchir à ça, je me dis que la première fois où je l'ai vu, en tout cas où je l'ai reçu. Ben, je crois que c'était une histoire d'amour. C'est-à-dire, j'ai beau réfléchir. Alors, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime et que j'aime beaucoup et tout ça. Mais lui, il me fait cet effet-là. Il y a un effet, je ne sais pas, je suis pris, je suis hypnotisé, à la fois par l'homme et par l'acteur. Mais c'est d'abord l'homme que j'ai vu à travers l'acteur. À chaque fois que je le vois jouer, je vois autre chose. Je vois une vibration qui me touche, qui me remue, qui me retourne.
Philippe Rebaud.
Une énergie que j'aime bien, une insolence que j'aime bien.
Ouais,
aussi,
c'est
que
ça.
Je n'ai pas, moi. Je regarde aussi chez lui, j'aime bien la tauromachie. Son côté tauromachique.
Trop verrouillé, trop pudique, trop timide. Moi, l'insolence, vous
non,
aimeriez
non,
avoir
élève.
Cette insolence
de
Devers?
Oui, ou de. Enfin, j'ai toujours été. Tous mes copains, en tout cas, j'ai toujours été vers les insolents, les mecs qui avaient un truc. Même la mauvaise foi, c'est un truc que j'ai pas. Moi, je suis un bon élève, je ne fais pas de vagues, je suis médiocre, enfin, je suis moyen. Oh, mais je,
Alors,
médiocre au sens de moyen. Je ne veux jamais faire de vagues.
Philippe Rebaud, il paraît qu'il y a 30 ans, dans l'un de vos carnets, vous avez écrit: moi, je suis un point de suspension, presque.
Ouais.
Ah, donc, vous continuez 30 ans plus tard. Vous êtes un presque.
Oui, c'est presque, ou un peu mieux faire, ou un truc comme ça. Je suis à cet endroit-là, mais ce que j'ai longtemps pensé être un défaut est finalement une qualité, parce que c'est plein de possibles. Quand on est presque, on peut en faire un paquet de trucs. C'est un peu ma philosophie, j'en ai fait une force.
Bravo. Alors expliquez-nous pourquoi, selon vous, un tournage, c'est un hôpital de jour.
c'est lié à mon expérience directe, hein. je vais le faire vite. Il se trouve que quand je suis rentré dans le cinéma, je sortais d'une dépression et j'avais fait 2 mois d'hôpital. Bon, avec une bonne dépression nerveuse, une dépression carabinée, comme on dit. Et puis, quelques temps après, une fois sorti de l'hôpital, un peu remis, mais encore un peu fragile avec le monde, j'ai une amie et un ami à moi qui travaillaient dans le cinéma et qui m'ont donc proposé de venir comme stagiaire régie sur un plateau, enfin, découvrir ces métiers. Et j'ai donc débarqué sur un plateau de Laurence Ferreira Barbosa, voilà, ça s'appelait J'ai horreur de l'amour, et j'ai découvert une équipe de cinglés, en fait. Je me suis dit, en fait, les mecs sont payés pour faire pour être cinglés. En plus, je comprenais rien à comment s'organiser un tournage, donc j'avais l'impression d'une espèce de ruche. Le mec dit, ah, tiens, je vais me mettre à la caméra, ouais. J'avais pas compris qu'il y avait un chef op. J'ai compris à un moment que c'était toujours le même, qui faisait toujours le même boulot, mais au début, c'était un peu. Je me disais, mais merde, c'est génial. Parce qu'en réalité, ça parle des fragilités. Tout le monde crée de la fiction, même pour ceux qui sont des techniciens.
Ouais.
C'est aussi rentrer dans la fiction. Hein. Ouais. S'inventer machinaux, c'est un rôle. Hein. Enfin, on les connaît tous. Mais... Donc, ils sont plus ou moins bien joués. Il y a des bons machinaux qui jouent bien
le rôle.
Mais
alors, ça veut dire que la vie vraie, en fait, elle vous ennuie un peu.
Ben,
et ce métier, qui est le vôtre, fait diversion.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est la vie vraie, j'y crois pas tellement. Ou quand elle me chope, enfin, elle m'ennuie. Je m'ennuie. Donc, non, mais en réalité, j'y crois pas vraiment. Je crois que tout est fiction. Enfin, comment croire que j'ai vraiment rencontré Roman et vraiment fait 2 enfants géniaux.
Votre histoire tend à le prouver, hein, parce que... Voilà.
Que la vraie vie existe.
Que tout est fiction et que fable et que tout s'entremêle et que le vrai, le faux, comment démêler tout ça.
Ah ouais. On ne saura pas.
Cette histoire de l'hôpital de jour. Je ne savais pas qu'il avait dit ça.
Oui.
Ça résume assez bien cette espèce d'arche de Noé, hein, où se retrouvent tous ces gens un peu mal grandis.
Ouais, fragiles.
Ouais.
Roman Boringer, est-il vrai que vous avez dû batailler pour que l'amour flou, le film d'abord, la série aujourd'hui, verse vraiment dans la fantaisie et un optimisme à tout craint, alors que Philippe, il avait plutôt tendance à vouloir ramener ça vers le dark, vers ses démons. Et vous vouliez quelque chose de résolument optimiste.
Oui, non, batailler, c'est beaucoup dire. Dans nos tribulations nocturnes autour de l'écriture, les mêmes choses qui nous opposent... Comme être humain, nous oppose aussi comme créateur, écrire ensemble, c'est aussi s'affronter sur nos tempéraments, moi trop autoritaire, lui trop velléitaire.
Vous dites, lui c'est le poète, moi je suis la bâtisseuse.
Oui, c'est ça, c'est une bonne répartition des...
Mais
il n'y a
alors,
pas de série sans
pas...
moi, il n'y a pas de série sans moi parce que j'ai bâti les... Mais quand j'entends la réaction des gens et tout ça, toutes les blagues qui font le plus rire, c'est celle de Philippe. Donc il n'y a pas de série sans moi, mais il n'y a pas de poésie sans Philippe. Donc c'est une espèce de... Mais c'est vrai qu'on s'est parfois jeté l'ordinateur à la gueule, lui voulait... je sais pas,
non, des références. Non, mais avait raison. Non, mais surtout, moi, je voulais des références par référence.
Je voulais Cazavette, mais moi, je disais, pas Cazavette.
Je voulais qu'on soit fiévreux. Ouais. Je voulais qu'on fasse un truc fiévreux à la Cazavette, quoi. Mais en fait, on n'est pas fiévreux. Donc ça aurait été un drôle de... Alors il m'a dit non, faisons une comédie, mais...
Moi j'adorais la fille de Julie Delpy, très léger, donc on était Delpes, entre Delpy et Cazavette.
Mais alors vous avez réalisé seul la série, comme le film, la série L'amour flou. Pourquoi pas à deux? Alors pourquoi?
Soyons transparents. D'abord parce qu'elle a du talent, qu'elle, c'est vraiment son endroit, moi c'est pas le mien, et puis j'aime pas travailler.
Vous êtes trop flébard.
Ouais, voilà, j'aime pas travailler, je suis pas très leader non plus, hein. J'aime bien, je suis un très bon second couteau, mais moi si on me demande le matin d'emmener tout le monde,
il faut des vibrations de chef sur un plateau pour embarquer tout le monde dès le matin.
Oui, il faut être assez constant aussi, et moi quand même je suis pas bipolaire, mais pas loin, du coup il y a les matins où j'ai une super patate, et puis le lendemain qu'elle m'aime, ben, j'ai pas la patate, et moi-même je comprends pas pourquoi, du coup je me dis pour faire subir ça à une équipe, bon bah je non mais c'est, voilà.
Bon, et moi, j'ai trouvé un endroit de complétude. Je ne peux pas dire que j'ai été plus heureuse dans ma vie de travail que ces 60 jours de tournage de la série. Là, j'ai vraiment, je ne sais pas, quelque chose en moi a prospéré. J'étais trop heureuse de mes acteurs. On dit mais, hein, vous avez remarqué, quand on devient réalisateur, mon chef opérateur, mon équipe, mes acteurs. Ça répond extraordinairement bien à l'énergie que j'ai, à l'envie, à la...
Et moi, je suis fascinée par les enfants qui se révèlent, en fait, on ne peut pas dire des acteurs, parce qu'ils sont eux-mêmes, mais avec un tel naturel et une telle présence en même temps, mais non voulue, parce que totalement spontanée à l'écran, embarquée comme ça dans quand même une longue aventure avec des vies parallèles, parce que le matin, ils se levaient pour aller à l'école. Je me demande ce qu'ils racontaient à leurs copains dans la cour de récré.
Là où ils sont merveilleux, nos deux enfants, c'est, on dirait qu'ils le vivent comme une affaire familiale d'artisanat, comme s'ils bossaient dans la boulangerie de leurs parents. Ils partent pas du tout sur le chemin de l'école, portés par le fait qu'ils font quelque chose d'un peu exceptionnel ou non. J'ai l'impression qu'ils partagent cet objet familial comme une... C'est l'extérieur, j'espère qu'il ne leur renverra pas trop, que c'est bizarre, que ça les met à part et ça. Mais eux... Ils tournaient le matin, puis ils partaient à l'école, ils revenaient. Ils ont l'air d'avoir intégré cette bizarrerie totalement. Comme... Mais quelque part, moi, je reconnais un peu, comme quand j'étais avec mon père et tout ça, je ne nous voyais pas comme des gens ayant une vie singulière. C'était vraiment... Ça dépend comment on montre ça. Mon père m'a toujours montré que c'était un métier d'artisanat.
Non, mais c'est ça. C'est ce que... Enfin, pardon d'intervenir. C'est en réalité, ils se sentent pas acteurs, parce que nous-mêmes, en dehors des moments où on est sur les plateaux, on n'est pas du tout acteurs. Eux ne se rendent pas vraiment compte qu'on est nous-mêmes acteurs.
C'est ça.
Enfin, ils ne se rendent pas compte que leur mère est une des plus grandes actrices françaises. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est important.
Et le papa aussi.
Et le grand-père. Richard
Bourrager, qui aussi traverse la série. Alors, le sépartement, c'est-à-dire, je rappelle, les deux appartements séparés qui communiquent uniquement par la chambre des enfants, c'est presque un personnage en lui-même dans la série.
C'est vrai.
Pour l'instant, la formule, elle fonctionne magnifiquement parce que les enfants sont de jeunes ados. Mais quand ils auront 18, 19 ans et qu'ils partiront, vous aurez deux appartements réunis par une chambre vide.
On va vraiment avoir l'air con.
Ouais.
Ça va nous faire une bonne saison de... Ouais. Les enfants sont partis, ils vivent encore dans le département. Ouais.
Sous prétexte des enfants,
ça va
être
triste, on va vivre dans le couloir, on va vivre dans la partie des enfants. On verra. En réalité, c'est ça notre force. Hein. C'est, on s'adapte hein, pas mal, non ?
Ouais.
On s'est adapté avec nos physiques difficiles et puis finalement, on s'adapte avec tout maintenant.
Mais c'est vrai que j'aurais du mal, moi, à me détacher de ce rêve communautaire.
Moi, une fois que les enfants sont partis, si je peux me permettre, peut-être que j'en profiterai pour m'éloigner. Non, c'est pas vrai, en plus, c'est pas vrai.
J'adore l'idée de cette vie, mais qui est Philippe, mais aussi nos amours respectifs, mais aussi nos voisins. Mais je sais pas, je trouve que vivre seul, finalement, c'est vraiment un peu ennuyeux.
Non, c'est vivre à deux. Moi, j'adore vivre seul ou à plein, mais c'est à deux que c'est...
Bon, alors, je ne sais pas si vous allez faire des émules. Vivre à plein, dit-il, la formule est belle. Voilà, vous allez sûrement faire des émules. Je pense à cette phrase de Cazavette, je ferai tout pour résoudre un problème, y compris faire un film dessus.
C'est une phrase merveilleuse, vraiment.
N'est-ce pas? C'est exactement ce que vous avez fait, Romain de Borger, Philippe Rebaud. Vous l'avez résolu ainsi, le problème.
J'ai découvert cette phrase qui est tellement drôle. C'est déployer l'énergie qu'il faut pour faire un film parce qu'on a un problème. Je la trouve à la fois infiniment profonde, teintée de beaucoup d'humour. Elle résume toutes les raisons pour lesquelles beaucoup sont à faire des films, mais sans se le dire vraiment. Je sais pas, je trouve cette phrase comme un miracle. Elle m'a éclairée.
Et cette phrase miraculeuse colle très très bien à l'amour flou. Alors lundi prochain, rendez-vous à 21h sur Canal+ pour 3 épisodes de l'amour flou. Merci Romain de Borger.
Merci de cette plongée magnifique. Ah ouais. Ouais, bravo. Merci.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.